d'emploi. Mode d'emploi.
Donc sur Secret de Fabrication, non mais non, on n'est pas à la bonne date. Mais que fait le camarade Bub dans le studio? Je vous le demande. Ben en fait, je suis en train de rattraper mon retard de devoir de vacances. Voilà. Il va falloir que je vous explique un peu. Pendant l'été, vous avez cru comprendre pour ceux qui ont suivi l'émission. Enfin bref, vous m'écoutez maintenant et vous savez que pendant l'été, moi j'étais fidèle au poste, même si vous n'avez pas écouté l'émission parce que vous étiez en vacances, eh ben, j'ai continué à faire des émissions et ben, la dernière s'est déroulée de la manière suivante, c'est que j'ai eu un coup de téléphone d'une amie à moi, Mariam, qui est syndicaliste, mais dans un autre pays et dans un métier qu'on ne connaît que assez peu, en fait, en tant que syndicaliste, qui est le métier des jeux vidéo. Et je me suis dit, cette conversation était vraiment très intéressante. Heureusement, je l'ai enregistrée, parce que je suis un petit sournois comme ça. Mais je savais pas quoi en faire. Alors, ce qu'on va essayer aujourd'hui, et c'est quelque chose de... Voilà, je vais essayer de rattraper mes devoirs de vacances, sans filet, en plus en empiétant sur une plage de mode d'emploi, pour essayer de vous traduire en live, en dub, live, ce que Mariam... voulu nous dire. Voilà, donc je c'est vraiment sans garantie parce qu'il n'y a pas du tout de filet, comme je le disais tout à l'heure, et eh bien on va se lancer. Et donc bah Mariam, commence par te présenter. Mariam, could you present yourself?
Hello, my name is Mariam Dixfilite. I'm a London-based.
Bonjour, je me suis Mariam Dixfilite. Je suis une syndicaliste basée à Londres et une journaliste sur les jeux vidéo. Et donc je travaille aussi à GamesWorkers International pour unioniser tous les travailleurs du jeu vidéo. Et voir comment le milieu autour des jeux vidéo peut faire du changement social, peut être participant au changement social. Et donc, voilà, donc en fait, la question suivante, donc, c'est en fait, depuis combien de temps, donc, Mariam s'intéressait-elle aux jeux vidéo et donc, c'est « How long have you been studying video games, please ?»
Well, I have started doing the writing around it about 3 years ago.
Ça fait 3 ans que je cherche à écrire autour des jeux vidéo.
Precisely around the points.
Et là, je commençais à travailler dedans, investir dans les universités. Mais les jeux, c'est toute ma vie, en fait. Quand j'étais en Russie, j'étais toujours dans les cafés Internet, en train de jouer à Quake, en train de jouer à tous ces jeux de... Mais je l'ai caché pendant très longtemps, parce que dans le milieu dans lequel je suis, qui est anarchiste et gauchiste radical, les jeux vidéo, c'est pas vu comme quelque chose de très intéressant.
Mais...
Et donc ça fait donc bien 3 ans que je me suis bien lancé dans ça, dans cette étude et dans cette chose-là, avec l'idée de mélanger le jeu vidéo et la politique. Donc c'était l'idée aussi d'ouvrir le questionnement de la gauche sur les jeux vidéo et donc ce mélange-là. Et on va voir que un certain nombre des problèmes qu'on va voir dans cette émission sont dus au fait que la gauche ne s'est pas assez penchée sur la question des jeux vidéo. Et donc, la question suivante était, quelle était la situation sociale dans les entreprises du jeu vidéo, dans l'industrie des jeux vidéo? And what's the situation, what's the social situation in the corporations of the IT business, and especially in games working?
Absolutely. So I think for the longest time we've had this image of the video game industry.
Ça fait longtemps qu'on a cette image de jeux vidéo comme étant un milieu moyenne classe, aisé et qui voulait être là. Où tout le monde était content. Ils vivaient leur rêve. Et créant ces jeux. Et tout était bien et tout allait bien pour le meilleur des mondes. Mais la réalité, elle est beaucoup plus triste et sombre. Il y a une dizaine d'années, on pouvait appeler ces jobs, c'est des travails sûrs, sécurs, en CDI. Mais maintenant, l'externalisation, la sous-traitance, fait que tout devient précaire. Donc, de moins en moins, les travailleurs du jeu vidéo sentent l'attaque de leur patron. Mais la résistance a commencé à s'organiser de 2001. Il faut dire qu'il y a quand même un événement, par exemple, qui a été l'épouse de EA. Voilà. C'était la femme d'un travailleur de EA qui avait envoyé un message dans ce qui était le début des réseaux sociaux, qui est devenu viral, un message très émotionnel, très triste, disant qu'elle ne voyait plus son mari, que sa famille ne voyait plus son mari, que pendant les périodes de crunch, donc, voilà, de très forte pression avant la publication d'un jeu, elle faisait des semaines de 100 heures. Ce message au début d'Internet a vraiment, en devenant viral, voilà, a été reproduit dans des journaux de jeux vidéo et a commencé à questionner. Voilà, et c'était une première tentative pour s'organiser. Il y a eu un procès qui a été gagné, un procès au niveau fédéral. Ça, c'était une bonne chose.
Mais
à 17 ou 18 ans d'écart, les choses n'ont pas forcément évolué dans le bon sens. Mais il y a 2 ans, on a vu une résurgence de l'organisation des travailleurs sur le lieu de travail du type jeu vidéo. Et là, on commence à faire remonter des atteintes sévères aux droits des travailleurs dans le jeu vidéo. Et donc, oui, on peut dire que il y a quand même de l'espoir, même si la situation s'est aggravée. La situation, c'était alors donc la suite nous amenait à décrire comment la situation donc s'est effectivement aggravée dans le jeu vidéo et les restructurations à travers les restructurations. Est-ce qu'il y a eu plus un vrai phénomène de réorganisation du jeu vidéo?
Has there been a big wave of outsourcing and reorganization in the video game? Could you detail this for us?
Alors c'est sûr, dans le Royaume-Uni, on a 40 000 travailleurs à peu près qui se disent travaillant dans le jeu vidéo. Mais il n'y en a que 12 000 qui sont à plein temps avec des CDI. Tous les autres sont externalisés, sont des travailleurs indépendants ou des sous-traitants. Et en fait, il y a beaucoup de compagnies qui vont les employer à plein temps comme des indépendants. Donc évidemment, pas de congés, pas d'arrêt maladie, Et ça, ça arrive évidemment à travers plein de différentes entreprises et plein de différentes industries. Ce n'est pas que dans l'industrie du jeu vidéo. On l'a vu aussi dans l'industrie culturelle, dans l'industrie de la tech.
But for whereas many other industries already have trade unions that would perhaps, you know, interfere in such dynamics.
Mais alors que d'autres industries auront des syndicats pour intervenir et donc défendre et garder un certain niveau, ça n'existe pas du tout. Enfin, en tout cas, ça n'existait pas du tout dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, bah oui, parce que le problème, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, donc les salariés du jeu vidéo, on va le voir, ont quand même pas mal adhéré à cette vision, on va dire, du travailleur indépendant, heureux d'être indépendant. Et j'ai voulu savoir plus, donc j'ai posé la question directement à Mariam. So, do they buy this? Do the workers buy this narrative about I'm happy to be independent? Are they following this or not?
Well, sure, of course, you know, as any industry, all the different workers will have
different opinions. Bah oui, plein d'industries différentes, différents travailleurs ont différents points de vue.
No, it's not a big surprise.
C'est pas une grande surprise.
You know, nor is it news that there is a libertarian.
Alors, en plus, on sait qu'il y a un fort tendance libertaire, mais alors libertaire libertarienne, à l'intérieur du mouvement des jeux vidéo et de l'industrie.
A lot of faith in governments and
alors, les travailleurs dans ces industries-là ont perdu tout espoir dans le gouvernement, ils ne croient plus à la solidarité, ils sont très individualistes.
Et
cette idéologie entoure et isole les gens qui travaillent dans l'industrie high-tech. Et beaucoup d'organismes de technologie vendent des solutions sans État et sans syndicat.
Especially, I'd say in UK and US, a very strong and organized attempt.
Alors, on a vu dans les années 70, et spécialement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, une tentative très organisée pour casser les organisations ouvrières, les décrédibiliser.
Bon,
il faut dire que les syndicats, ils n'ont pas forcément aidé, parce qu'ils sont souvent sclérosés, bureaucratisés, voire corrompus. Mais ça...
Mais
ça change. Il y a une nouvelle génération de travailleurs qui est en train de s'organiser. Et ils changent aussi la manière dont leurs syndicats sont constitués. Et plutôt dans l'émission en off, on avait parlé de l'organisation, dans le nettoyage, dans les plateformes de livraison à vélo. Et c'est très excitant parce que nous aussi, on va aller dans ce sens-là. Et donc nous sommes alliés avec justement une nouvelle union syndicale de Grande-Bretagne qui s'appelle EGW. EWGU. Et en fait, ils syndiquent tout le monde. Ils syndiquent les gens des Deliveroo, ils syndiquent les gens de Uber. Et c'est précisément pourquoi on a rejoint cette union. Alors, beaucoup de gens objectent, oui, mais de toute façon, ils vont aller virer les gens, ils vont aller ailleurs, dans d'autres pays. Et moi, ça, je réponds, mais enfin, s'ils sont capables de syndiquer des livreurs à vélo, s'ils sont capables de syndiquer ces gens-là, forcément, c'est les gens qu'il nous faut. C'était intéressant parce que effectivement, on voit tout de suite la volonté de s'organiser en un peu plus que tout simplement côte à côte deux personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, on a voulu savoir un peu plus sur ce syndicat Games Workers United qui est donc récemment émergé et s'est affilié. Et il s'avère que c'est une histoire assez extraordinaire. Elle va nous conter immédiatement.
Right, so more than happy to explain the sort of the beautiful story of how this movement was born.
Oh, good story. We always love a good story here.
Is this the time?
Bon, c'est le moment là, ça y est, on y va. On va raconter cette belle histoire qui est la création de GW.
Again, kind of out of nowhere.
C'est sorti un peu de nulle part. Et donc, pendant la conférence des développeurs de jeux de San Francisco en début 2018, une organisation patronale appelée IGDA avait fait une conférence dans la conférence.
Enfin,
expliquant pourquoi les syndicats ne sont pas la solution. Donc, ils avaient commencé à travailler dans ce sens-là. Et ils ont créé un logo qui s'appelait Games Workers Unite. Les personnes qui étaient contre cela ont créé un hashtag Game Workers Unite pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et cela devint viral au niveau mondial, au moment même de la conférence. Et donc, ils postaient leurs histoires en ligne. Comment ils avaient souffert, comment ils avaient des difficultés. Et vraiment, ils étaient en train de soudain d'arracher le voile et d'arracher l'image. Et bien évidemment. Et donc, le chat a été fermé violemment. Mais la conversation s'est poursuivie sur d'autres sites, dans des chat rooms, où les gens venaient raconter leurs histoires de manière très émotionnelle. Et donc, et d'un coup, ils ont rencontré le désir de s'organiser.
But that's not what happened. So we created a Discord chat.
Et voilà, on aurait pu crever comme ça, ça aurait été tout de suite, mais on a continué le travail en créant un énorme chat groupe. Et 15 mois plus tard, on a 27 organisations sur les 5 continents.
Okay.
Donc c'est très important ce qu'on fait, aussi qu'on puisse venir là expliquer ce qui se passe ici, ce qui se passe en Grande-Bretagne. Le Game Workers United est devenu le premier syndicat officiel légal à représenter les travailleurs du jeu vidéo en Grande-Bretagne. Et donc c'est vraiment le premier syndicat des jeux vidéo en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Absolutely. I mean, again, you know, different countries have different.
Et ça a marché internationalement parce que même si différents pays ont différents systèmes légaux, différentes manières de reconnaître les syndicats.
You know, there are already talks of new legal trade unions across the world.
Et voilà. Et maintenant, les syndicats commencent de plus en plus à s'organiser internationalement. Et en général,
apart from that, like legal unionization, there are now chats.
Et maintenant, en plus de ce syndicalisme légal, il y a des chats en ligne qui nous permettent de recueillir et partager nos problèmes et de faire des allers-retours et d'envoyer des informations ou envoyer des gens, des informations ou des revues de presse à des gens qui nous contactent. Et c'est ça la solidarité entre les travailleurs. Alors en plus, il y a des choses sympas comme des fêtes qu'ils organisent ensemble et une vraie solidarité horizontale. C'est vrai que on a beau détester des fois, souvent à raison les réseaux sociaux. Un mouvement comme celui-là, on a pu vraiment bénéficier des réseaux sociaux et de leur force. Donc un nouveau syndicat organisé depuis seulement 15 mois. On pourrait se dire bon bah ils sont les bras dans la paperasse. Ben ça a pas vraiment l'air d'être le cas parce que quand j'ai posé la question, en fait Mariam m'a répondu qu'il y avait effectivement déjà eu beaucoup d'actions. Donc alors Mariam, qu'est-ce que vous avez fait en 15 mois à Games Workers United? What has Games Workers United done in these past 15 months in terms of organizing or actions?
Oh, 100%. So, again, so in terms of GWU UK, it's doing incredible work day to day with our members, really showing up, showing up as a union.
GWU UK, les Royaume-Uni, a commencé vraiment à se déplacer au bureau des compagnies, rencontrer les employeurs pour leur faire comprendre un certain nombre de choses.
To help out in that sort of space. In terms of the more international movement.
Alors internationalement.
First of all, definitely we just like completely changed the mood.
On a vraiment changé l'atmosphère, on a changé le mood dans les sociétés de jeux vidéo.
and ways of organizing. Do we create our own?
Alors maintenant, la plus grande question se pose dans comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'on rejoint un syndicat? Est-ce qu'on crée le nôtre? Toutes ces questions-là sont en train de se poser dans les organisations que nous avons montées. Maintenant, les sociétés sont obligées de reculer. Elles disent, nous n'allons pas organiser le crunch et la pression. Et même, elles commencent même à s'enorgueillir de pouvoir dire qu'elles traitent bien leurs employés. Donc c'est déjà une avancée. Alors on est soutenu par des gens comme Bernie Sanders sur Twitter. Il y a un épisode de Patriot Act qui est spécifiquement sur notre syndicat. C'est plutôt incroyable. Donc je pense vraiment... Il y a tellement de travailleurs et de travailleuses qui ont été occupés dans une souffrance importante due à leur travail dans les jeux vidéo que maintenant, en faisant ça, on a changé le paysage culturel et on change le combat à l'intérieur de ces médias. On est capable de nous exprimer. On va trouver notre voie parce qu'on peut, ça permet aux travailleurs de ces secteurs-là de parler.
Obviously, sometimes there can be. I'm not saying, you know, go ahead and just like talk about it out loud. This is a very, very situation.
Alors, évidemment, on ne demande pas aux gens de se doxer tout seul. Mais on peut leur donner un sens de sécurité, de solidarité.
Behind the scenes, more quietly, we've been.
Et alors derrière les un peu plus discrètement.
Smaller situations due in Japan and Spain and France.
On a pu intervenir dans des situations similaires au Japon, en France, en Espagne.
Kind of like I guess press releases, and we would.
Alors on a pu sortir des revues de presse.
And/or send a press release across.
Et donc, soutenir éventuellement des luttes, des communiqués, par des communiqués et une solidarité en retransmettant leurs luttes. Et donc ça, d'une certaine manière, nous et d'autres, on a réussi à faire s'asseoir à leur table les employeurs qui puissent entendre les réclamations. Alors ce qui est intéressant, c'est que le syndicat est totalement volontaire. Il n'y a pas d'argent qui circule. C'est vraiment une plateforme horizontale.
Infrastructure that has been built just by that solidarity.
Juste construite par cette solidarité.
Amount of time and how much, like, small victories as
en
well
ce sens,
as a complete cultural shift has happened.
C'est beaucoup ce qu'on a obtenu. Toutes ces victoires et un grand changement culturel. Donc, on voit bien. Donc, la première partie de l'émission s'achève. J'espère que vous avez réussi à suivre. En attendant, on voit bien que dans tous les secteurs, y compris des secteurs qu'on pouvait penser très peu organisés, comme les jeux vidéo, nous recevrons des personnes de Solidaire Informatique dans une autre émission. Vous verrez que il y aura beaucoup à dire aussi sur l'organisation des salariés dans l'informatique en général, mais dans le secteur des jeux vidéo qu'on aurait pu penser complètement déstructuré. Peuplé de gens un peu décérébrés qui sont fanatiques du truc et qui donc vont pas compter leurs heures, eh bien il est nécessaire de s'organiser. Parce que on peut pas toujours vivre dans le petit mythe qu'on avait dit où tout le monde était content et on disait toujours la même chose, n'est-ce pas ?
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah oui.
Humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
Travailler pour vous, on est heureux comme des fous.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like, yeah.
Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des
bas. Un jour Dieu vous le rendra.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah oui,
nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Et il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Et voilà. Donc, on ne dira plus merci, patron. Donc la conversation se poursuivant avec Mariam, nous avons dévié légèrement, puisque en fait, de l'organisation dans les jeux vidéo, comme salarié, on va dire, pour défendre ses droits, on est passé insensiblement à la culture dans le jeu vidéo, et notamment la culture des jeux vidéo, et comment ça a pu avoir des effets relativement explosifs, notamment lors d'un événement qui est passé un peu inaperçu en France, mais qui a eu des énormes retentissements aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne, qui s'appelle le Gamergate. Alors le Gamergate, Kezako, Saou, Mariam, what's Gamergate?
So I now even do guest lectures.
Maintenant, je fais même des cours à l'université sur cette question.
Not to just say it as some sort of isolated event.
Ce n'est pas un événement isolé.
Je
peux prendre quelques minutes pour expliquer comment on en est arrivé à ce point.
Because for many people, it will just seem like such a random out of nowhere event, but there is
ça ressemble à un événement sorti de nulle part, mais il y a vraiment tout un cheminement qui explique ce qui s'est passé et où on en est maintenant. Essentiellement, c'est la plus grande campagne de harcèlement cybernétique qui a jamais eu lieu et qui a eu lieu à peu près en 2014 et qui essentiellement ciblait des femmes dans les jeux, des femmes dans l'industrie du jeu. Bon, alors évidemment, on se dit, de toute façon, c'est une industrie qui est dominée par les hommes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, dans l'industrie de la tech, dans les années 50 et 60, les femmes étaient très nombreuses. Mais et donc une compagnie des années 60, la fin des années 60, a publié un énorme rapport en ciblant un tas de travailleurs de la technologie. Et sur 1000 personnes, sur 1800 personnes, 166 étaient des femmes. Et donc ils ont sorti comme caractéristique que le bon programmeur a une notion que la plupart des recruteurs allaient adopter. Et donc cette notion qu'en fait il valait mieux être un homme et être peu sociable pour être un bon technicien. Et donc c'est devenu une culture, c'est devenu une norme. Atari par exemple filmait des films porno dans ses studios. Et donc ils avaient un meeting de leur conseil dans un jacuzzi avec des prostituées. Et donc ça donnait cette image d'industrie de garçons, de gars. Et alors à ce moment sont sortis des jeux comme Doom et Quake, très 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 efficaces, avec des mécaniques de jeux très innovantes, mais essentiellement tournées sur la violence et le masculinisme. Et donc on avait l'héroïque homme, et donc les femmes étaient de plus en plus repoussées.
Hundreds of millions of dollars by United States Department of Defense is actually cycled into the games industry to create more military based.
Et donc dans les années, au début des années 2000, des centaines de milliards de dollars ont été investis par le système complexe militaire industriel dans les jeux vidéo pour leur donner un arme plus martiale. Et alors, mais par contre, le changement a eu lieu à la fin des années 2000, quand de nouveaux jeux sont intervenus, notamment la Wii, notamment. Et notamment des jeux portables. Et donc un développement inattendu est arrivé qui en fait a réouvert le marché du jeu vidéo sur d'autres publics. Et en 2008, la création de la Wii, on a tous cette image de la grand-mère qui joue à la Wii. Toute la démographie du marché a complètement changé.
From decades and decades of who it used to be.
Et voilà. Et d'un coup, il fallait que ça englobe tout le monde. Toutes les anciennes normes étaient explosées. Mais j'explique pourquoi on en arrive là. Donc il y a beaucoup d'interprétations sur cet événement. Et donc il faut savoir que il y a eu des gens qui m'ont poursuivi là-dessus. Moi j'ai été poursuivi, on m'a doxé. Des gens ont été poursuivis comme moi. Donc je fais attention. Donc cette développeuse de jeux vidéo qui s'appelait Zoe Quinn a créé un jeu vidéo qui était un jeu vidéo psychologique. Et donc qui traitait des problèmes de dépression et de santé mentale. Et donc elle a eu une critique assez positive dans beaucoup de magazines. Bon, alors il y avait un côté de proximité, elle était déjà développeuse dans le milieu. Donc évidemment, il y a toujours cette dimension de favoritisme de gens qui sont proches du milieu et qui ont les connexions nécessaires pour avoir des bonnes critiques. Mais ce jeu n'était pas forcément...
Donc, ce qui
est arrivé, c'est que quelqu'un proche de Zoe Quinn, très vexé, très fâché, l'a littéralement réduit en cendres sur les réseaux sociaux, en publiant également des choses qui étaient quasiment de la pornographie de revanche. Et donc, tout ça a été publié sur des forums en ligne. Et il a vraiment fait un travail de publication. Alors maintenant, si on mettons de côté de cette information sur Zoe Quinn, maintenant il faut qu'on regarde un autre côté de ce qui s'était développé. Ce qui était l'influence de l'extrême droite sur ces forums en ligne. On sait tous qui est Stephen Bannon. Donc il a été conseiller de campagne de Donald Trump et un temps dans son administration. En 2012, il a commencé à s'intéresser et à investir dans des compagnies comme par exemple celle qui travaillait sur World of Warcraft. Et ce qu'il commençait à voir, c'est qu'il y avait des forums de jeunes hommes, souvent frustrés sexuellement, frustrés émotionnellement, avec des problèmes de communication, avec les femmes notamment. Et donc surtout face à la vague de féminisme qui leur faisait très peur. Et alors s'il faut voir maintenant la faillite des progressistes, ils ne sont pas rentrés dans ce terrain-là. Ils l'ont laissé vierge, ils ne se sont pas tournés vers ce public. Et Bannon a cru qu'il pouvait là recruter une armée. Logé dans les forums de jeux vidéo, pour ses propres besoins. Alors il a fait travailler des gens comme Milo Yiannopoulos, et donc qui eux-mêmes se sont dirigés vers les modérateurs et les organisateurs des forums, comme 4chan par exemple.
Et donc
ce qui est intéressant, c'est les chats de jeux vidéo à côté des jeux, à côté des parties en ligne. Et donc en 2014, ils ont décidé que Zoe Quinn serait leur cible. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait exploser. Et en étendant de plus en plus leurs attaques contre toutes les femmes qui défendaient Zoe Quinn, et leur principal point était que tout ça, c'est du favoritisme. Donc, du favoritisme, quoi.
Her game was reviewed positively just because
Voilà, il disait que son jeûne avait été retenu des revues positives que parce qu'elle était dans le milieu et probablement qu'elle couchait.
View towards that, as well as just, I think it was really a fascinating playing out. And you know,
non, c'était un, en réalité, c'était un jeu qui était intéressant.
I think again, we need to think it's 2014, it's like the birth of like proper popular Twitter and stuff like that.
Voilà. Alors, il faut voir à quel moment c'est arrivé. En 2014, c'est le début du Twitter populaire, on va dire, de masse.
Yeah, we're seeing this explosion.
Et donc, on voit cette explosion.
Not just death threats, not
avec
just
des menaces de mort, des menaces de viol qu'on envoyait à ces femmes. Elles ont dû déménager elles ont dû changer de maison. Leurs amis ont dû changer de maison. Il a fallu fermer des conférences et des fêtes à cause de menaces de bombes. En 2014, c'était très très nouveau. C'était terrifiant. Et ça, c'est le moment où l'industrie du jeu a dû commencer à réfléchir un peu à ce qu'elle faisait, au monstre qu'elle avait créé. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas s'attaquer aux joueurs de jeu eux-mêmes. Aujourd'hui, on a une vague de projection de problèmes de santé mentale.
I would argue that it was a very, very, very active and.
Alors, et c'est pas du tout quelque chose de qui est issu de la santé mentale. C'était une action très organisée, très volontaire, d'empreinte politique sur un milieu et d'implantation dans ce milieu. Ils ont vu une opportunité. Oui, ils ont vu une opportunité. Et ils l'ont galvanisé. Ils sont créés un centre communautaire en ligne pour des gens qui étaient rejetés par la société et qui avaient peur des femmes. On doit donner sa part de responsabilité à la culture du jeu. Mais c'était une campagne très active par des gens qui savent utiliser ça et savent taper dans la culture du jeu. Ils s'étaient rendu compte qu'il y avait une armée pour eux. Et c'est quelque chose que les progressistes n'ont absolument pas vu. Alors que Breitbart a publié dans le même temps 18 articles sur Gamergate. Donc Breitbart, édité par le même Steve Bannon. Alors que le reste des médias ne s'en intéressaient pas. Donc si on voulait savoir ce qui se passait sur Gamergate, voilà, et le problème de donc justement l'éthique dans les jeux vidéo, la référence, c'était Breitbart. Évidemment, à côté, avec des titres comme « Est-ce que tu préfères que ta fille ait le féminisme ou le cancer ?» Voilà. Alors,
there was, as I said, just a lot of actual networking between the far right actors.
Voilà. Et donc, tout ça, c'est l'aspect visible d'un énorme travail de networking opéré par ces groupes d'extrême droite pour s'infiltrer et organiser ces personnes. Donc la conversation avait bien évolué et donc il semblerait qu'en plus d'un terrain syndical, un terrain de résistance sociale, le monde du jeu vidéo est également un champ de bataille culturel. Et ce champ de bataille culturel, Mariam allait finir par nous le décrire et comment elle envisageait ces questions-là. Je crois que j'ai un message de la technique. Non, c'est bon. Ok. C'est parti. Donc, Mariam, so I get that gaming industry is also a cultural battlefield, not just a social battlefield.
So, absolutely. I mean, 2017 was the year when video games overtook the...
Eh oui, et c'est une grosse industrie. En 2017, les jeux vidéo ont remplacé le théâtre, l'art, les beaux-arts, la musique, comme plus grand pourvoyeur médiatique. Et c'est bien encore une fois un échec de la gauche de ne pas avoir vu que c'était devenu une culture mainstream. Et les dynamiques culturelles ont lieu dans ce milieu.
academic papers,
un nombre incroyable de papiers universitaires et de journaux sont dédiés aux arts, dédiés à la musique. Mais par contre, le monde du jeu vidéo est totalement oublié à l'université, par exemple, et dans les journaux sociaux. Et la gauche pense toujours que c'est une culture, une sous-culture, qui n'a pas vraiment l'intérêt et qui n'a pas l'intérêt à être poursuivi. Alors moi je compare plutôt ça à ce qui s'est passé dans le milieu des supporters de football, et qu'on est en train d'envoyer un message, y compris vers les gens qui sont des aficionados de jeux vidéo. Et donc, ça nous permet de connecter avec d'autres. Ça nous permet de connecter avec eux. Et ben voilà, parce qu'il faut agir, parce que si on n'agit pas, regardez ce qui s'est passé récemment. Il y a quelques mois, non, il y a quelques semaines, l'assassin de Christchurch en Nouvelle-Zélande, le tueur de la synagogue de San Diego, et récemment ce qui s'est passé au Texas. Tous ces événements sont le fait de suprémacistes blancs qui ont mentionné dans leur mémoire ou leur manifeste qu'ils avaient été éduqués aux jeux vidéo et que leur culture provenait des jeux vidéo. Et la réaction qu'on a aujourd'hui de Donald Trump ou de certains libéraux, comme quoi c'est les jeux vidéo comme une forme en soi qui n'a pas de contenu, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas la forme du jeu vidéo, c'est le contenu sur lequel il faut travailler. Ça a déjà coûté des vies de ne pas s'adresser à ces problèmes-là. Et je suis très content que votre émission, elle nous permette de dire, mais comment on a pu foirer à ce point-là? Et donc ces énormes réseaux avec leurs propres dynamiques peuvent générer des phénomènes de masse, et il y a des gens qui sont déjà investis dedans. Et la droite et les réactions et l'extrême droite se sont incrustées dans ces communautés. Et on commence à peine à gratter la surface. Bon, je ne veux pas finir sur une note pessimiste. Voilà. Donc, les deux parties de l'émission, là, elles se rejoignent. Parce que il voit une intersection ici. Et voilà pourquoi je suis intéressé à la fois par la culture du jeu vidéo et l'organisation dans le monde du jeu vidéo. Parce que c'est très intéressant. Depuis qu'on organise Game Workers United, il y a une fracture. Une fracture à l'intérieur du mouvement du côté des joueurs de jeux vidéo.
Challenging the bosses, the 1%, etc.
On pourrait se dire qu'ils sont pas intéressés par ce défi aux 1% et aux patrons. Et donc, on pourrait se dire que ces personnes-là qui sont tombées dans ces griffes de l'extrême droite ne sont pas intéressées. Alors, évidemment, il y a des acteurs importants de l'extrême droite comme Miles Strong qui ont dit, ça n'a aucune importance. Et il y a tellement de joueurs qui retweetent ce qu'ils disent en disant, non, en fait, c'est une bonne idée, là. Je t'ai suivi jusqu'ici, mais là, ça s'est pas passé. C'est bien qu'ils s'organisent pour attaquer les patrons. C'est des gamers, ces gens-là. C'est des followers de ces types. Et il y a plein de messages privés qui sont là, genre, ouais, moi, j'y pense pas grand-chose des syndicats, mais j'aime vraiment ce que vous faites. Ce qu'on commence à voir, il y a un clash, mais plutôt une merveilleuse édification et justification de nos politiques en montrant que les salariés peuvent être au pouvoir et au contrôle. Et on voit bien qu'il y a une sensation, c'est le moment que les gens ont besoin de comprendre que ce n'est pas en se divisant les uns les autres ou en étrangifiant les gens qui ne sont pas comme nous.
class composition.
Mais qu'il faut qu'on travaille de l'intérieur de la classe pour s'émanciper. Et en créant une solidarité interne. Voilà ce qui pourrait nous sauver. Que beaucoup de gens sont en train d'avoir ce moment un peu eureka, là, où ils se disent, ça suffit de se contrôler. Voilà, qui se disent que c'est le moment. Donc voilà, c'était un peu l'interview avec Dubbing en live que nous avons fait. Je crois que je m'en suis pas trop mal tiré. Bienvenue, tous les commentaires sont bienvenus. L'antenne est ouverte parce que nous avons encore un peu de temps si vous voulez intervenir, prendre contact et compagnie. Alors, pour trouver donc le contact de Games Workers United, il faut taper donc @gamesworkers sur Twitter ou Facebook. Vous obtiendrez donc leur compte et donc vous pouvez vous connecter avec cela. Je pense à toutes les personnes qui travaillent dans l'informatique et les jeux vidéo en France. Hein. Si vous écoutez cette émission, bien sûr, prenez contact, il n'y a pas de problème. Bon bah écoutez, comme c'est une émission qui est à moitié prémontée, à moitié improvisée, il nous reste un quart d'heure, je propose que nous chantions. Mais en réalité, bon, je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote par rapport à Google. Les salariés de Google sont aussi en train de s'organiser. Alors je parle pas, je parle des salariés de la maison mère qui sont en train de se poser des questions à la fois sur le harcèlement moral. Dans l'entreprise, sur le harcèlement sexuel, même si Google se targue effectivement d'être pionnier en la matière, mais aussi sur de plus en plus les questions morales que se pose le fait de travailler avec le gouvernement chinois, de vendre des applications militaires, évidemment puisque Google ayant la main mise sur énormément de données intéresse beaucoup de monde et les salariés de Google sont en train de se faire assez fréquemment lanceurs d'alerte et en train de réclamer leurs droits à se syndiquer, on est en Californie quand même, donc au moins donc pouvoir s'exprimer. Donc il y a une question de liberté d'expression qui est très forte en ce moment, y compris dans des métiers comme ce métier donc du jeu vidéo qu'on a vu, ou les métiers de l'informatique, où la déstructuration, y compris l'isolement individuel, sont extrêmement fréquents. Voilà, c'était l'émission pirate de Secret de Fabrication, donc du 6 septembre 2019. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici.